Quelle joie de nous retrouver pour ce temps de culte ce matin. Amen. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, notre pasteur Luc nous a parlé de la puissance de la prière. Et je vous encourage à écouter ce message, si vous n'étiez pas là. Il est disponible sur Internet, sur le site de l'Église. Il est disponible également auprès de la Sono. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du sonorisateur pour avoir une version sur clé USB ou sur CD. Et à la fin du message que Luc a apporté, il a parlé d'un épisode qui se trouve dans l'Exode. Et c'est sur ce passage que j'aimerais revenir ce matin. Et en introduction du partage ce matin, je vous propose de lire un court verset. Court, c'est vrai, mais rempli de sens. On est dans Exode au chapitre 17 et au verset 15. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel, mon étendard. Amen. Un étendard, ou une bannière, selon les traductions, c'est un bâton sur lequel on a attaché un emblème. Le plus souvent, c'est un drapeau. Mais c'est un terme qui est issu du langage militaire qui sert de signe de ralliement. Il n'y a pas de drapeau au bout, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais ça ressemble à ça finalement, c'est quelque chose que l'on brandit pour montrer notre ralliement. Et quand on utilise l'expression « se ranger sous la bannière de quelqu'un », eh bien cela signifie que l'on est avec cette personne, que l'on fait partie du même camp, que l'on est ensemble. Et dans notre verset, quand Moïse dresse un autel, c'est pour en faire un témoignage, pour que de génération en génération, on puisse se rappeler, en voyant cet autel, pourquoi il a été construit ici, pourquoi il porte ce nom, l'Éternel est mon étendard. C'est-à-dire, si on le dit d'une autre manière, nous sommes dans le camp de Dieu. Et comme un étendard est aussi physiquement au milieu des troupes, dans le côté militaire, cela signifie en même temps que Dieu est au milieu de notre camp. Amen. On l'a déclaré ce matin au travers des louanges. Nous sommes dans le camp de Dieu. Toutes nos louanges, en fait, montrent cela. Et je crois, et j'ai la conviction profonde, que Dieu est au milieu de notre camp ce matin. Que Dieu est présent dans notre Église. Amen. Si Moïse a dressé un autel pour témoigner que l'Éternel est notre étendard, c'est en réponse à différents événements qui viennent de se produire au milieu du peuple, qui amènent les Hébreux à poser même une question surprenante. Dans Exode au chapitre 17, verset 7, voici la question que les Hébreux posent. L'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? C'est comme s'ils ne savaient pas. Reprenons un peu les éléments de contexte pour bien comprendre. Le peuple d'Israël vient de passer 430 ans en esclavage en Égypte. Mais Dieu les a délivrés de façon miraculeuse. Les premiers chapitres de l'Exode racontent cette délivrance extraordinaire. Et désormais, ils sont libres et ils se trouvent dans le désert. Face au manque d'eau, face au manque de nourriture, face à la fatigue qu'ils ressentent. Et certains vont même aller dans ce contexte-là jusqu'à regretter leur situation d'esclave. Ils vont s'en plaindre à Moïse. On a faim, on a soif, on est fatigué. Mais Dieu les entend. Dieu entend leurs plaintes et y répond. Il va les nourrir en leur envoyant la manne, qui est une nourriture qui vient du ciel, une nourriture miraculeuse. Dieu aussi va leur donner à boire en faisant sortir de l'eau d'un rocher par l'intermédiaire de Moïse. Ça aussi, c'est une intervention miraculeuse. Et enfin, Dieu a aussi instauré un jour de repos chaque semaine où le peuple est appelé à cesser de travailler pour se reposer et honorer Dieu. C'est le jour qu'on appelle le jour du Shabbat. Traditionnellement, il s'agit du samedi d'ailleurs. Encore aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous verrez que le jour de repos, c'est le samedi. Mais pour les chrétiens, Eh bien, avec la venue de Jésus, ce jour est devenu le dimanche. Le dimanche est devenu notre jour de repos. Et c'est au cours de tout cela que les Hébreux s'interrogent avec cette question qui est encore à l'écran. L'Éternel est-il au milieu de nous ? Oui ou non ? Et il faut bien avouer que parfois on réagit un peu pareil, un peu comme ce peuple hébreu. Tous nos besoins sont comblés. On a de quoi se nourrir, de quoi boire, on a un toit, un travail, une famille. Et bien souvent, Dieu répond bien au-delà de nos simples besoins primaires. Il répond bien plus. Et pourtant, on ne réalise pas que tout cela vient de Dieu. Et on peut tenir ce genre de discours. Est-ce que l'Éternel est au milieu de nous ? Oui ou non ? Mais, merci Seigneur, Dieu est patient. Il est patient avec nous. Il a été patient aussi avec les peuples hébreux. Et parfois, c'est au travers des difficultés que l'on prend vraiment conscience que Dieu est là. Que Dieu est bien là, oui, au milieu de nous. Les difficultés qu'Israël rencontre, ils portent un nom. Ils s'appellent les Amalécites. C'est dans Exode 17, au verset 8, juste après qu'ils aient posé la question, étonnamment. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Ça veut dire quoi, Réphidim ? Personne n'a fait d'hébreu ancien ici ? Non, je vous rassure, moi non plus. Hein. Mais Réphidim, quand même, en se documentant, on arrive à savoir ce que ça veut dire. Ça signifie lieu de repos. En fait, Israël se repose. Et c'est dans ce lieu de repos que l'ennemi amalécite vient les attaquer. Et ce lieu de repos, c'est un lieu qui a un symbole très fort. Parce que c'est là que le repos de Dieu a été instauré, ce fameux Shabbat. Et Moïse va être très clair dans la signification de ce symbole. Au verset 16, toujours de Exode 17, Moïse dit « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. » Le repos de Dieu symbolise le trône de Dieu. Ça pourrait faire l'objet d'un message complètement à part, tellement il y aurait de choses à dire. Et il y a de fortes dimensions prophétiques dans cette notion de repos de Shabbat. Mais pour aujourd'hui, ce que l'on peut retenir, c'est qu'en fin de compte, les Amalécites se sont attaqués à Dieu. Et nous allons voir ensemble de quelle manière Dieu utilise cette situation pour se révéler à son peuple, d'une façon particulière, afin qu'il sache, afin qu'il prenne réellement conscience que oui, Dieu est au milieu d'eux. Lisons la suite du texte. On est dans Exode au chapitre 17, toujours, et verset 9. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Ce Josué est celui qui va donner son nom au livre de Josué, que l'on trouve un peu plus loin dans la Bible. Et ce verset, en fait, c'est le tout premier passage où on entend parler de Josué. Mais est-ce que vous savez qu'au départ, Josué ne s'appelle pas Josué ? Est-ce que quelqu'un se rappelle du nom initial de Josué ? Je l'ai entendu. Osée. Et osée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire salut ou sauve. Et en quelque sorte, ce nom représente un salut humain. Mais un nouveau nom lui a été donné, Josué, qui veut dire l'Éternel est salut ou l'Éternel sauve. Ce salut prend une dimension divine. C'est le salut qui vient de Dieu. Moïse envoie Josué mener un combat physique, selon notre regard humain. Mais ce combat va prendre une dimension spirituelle déterminante. Car c'est Dieu qui va mener réellement le combat. Aujourd'hui, nous sommes, nous aussi, dans un combat. Est-ce que vous le saviez ? Et nous avons un ennemi commun. Cet ennemi, il est commun à toute l'humanité. Il s'appelle le péché. Mais nous ne sommes pas appelés à mener un combat physique contre le péché. Nous sommes appelés à mener un combat spirituel. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné à nous aussi un homme dont le nom est l'Éternel et Salut, ou l'Éternel Sauve. On peut le lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 20. « Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, l'Éternel et Salut, ou l'Éternel délivre dans certaines traductions. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Ce n'est pas nous qui combattons le péché. C'est Dieu qui combat, et il le fait au travers de Jésus. Jésus est celui qui est venu de la part de Dieu pour remporter le combat contre le péché. Alors on peut se demander dans tout ça, ok, Jésus est venu combattre, et notre rôle à nous dans cette histoire ? Eh bien, pour connaître notre rôle, eh bien, regardons ce qu'a fait Moïse dans la suite de notre combat, au Exode 17, verset 9. Alors Moïse dit à Josué, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu, dans la main. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? L'étendard. Exactement. Le bâton que va tenir Moïse, c'est l'étendard de Dieu, permettant de déclarer que Israël a choisi d'être dans le camp de l'Éternel et que l'Éternel est au milieu de leur camp en train de combattre l'armée ennemie. Et notre rôle, eh bien, c'est celui-là en fait, celui de Moïse, c'est de porter l'étendard de Dieu. De cette manière, nous déclarons que nous avons choisi d'être dans le camp de l'Éternel. C'est déjà une première chose. Mais non seulement que nous avons choisi d'être dans le camp de l'Éternel, mais aussi que l'Éternel est au milieu de notre camp. Notre camp, c'est quoi ? Notre camp, c'est notre vie, lorsque l'on regarde individuellement. Mais quand on regarde collectivement, notre camp, c'est notre famille, c'est notre Église. Lisons la suite pour voir comment le combat va se passer. On est dans Exode 17, verset 10. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. On voit donc que ce qui influence ce combat, ce n'est pas du tout ce que font les combattants. On n'a aucune information sur comment le combat se passe vraiment au milieu du champ de bataille. Parce que ce qui influence le combat physique, c'est le combat spirituel qui est en train de se jouer. C'est là que se passe le moment déterminant. Moïse lève l'étendard de Dieu et Israël est plus fort. Moïse baisse l'étendard de Dieu et ce sont les Amalécites qui sont les plus forts. Et pour nos vies, c'est pareil. Nous levons l'étendard de Dieu, nous sommes plus forts que le péché. Amen. Nous baissons l'étendard de Dieu. Et c'est le péché qui reprend le dessus. Alors ça veut dire quoi, concrètement ? Lever l'étendard de Dieu dans nos vies. Eh bien, c'est rechercher la présence de Dieu. C'est rechercher une relation avec Dieu, une relation personnelle, intime. C'est rechercher à être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. C'est une démarche active. Parce que, en fait, c'est de cette manière que nous déclarons à Dieu « J'ai choisi d'être dans ton camp ». Quelqu'un pourrait se dire « Oh, moi, j'ai rien fait de mal. J'ai pas de péché à combattre. J'ai pas besoin que Dieu me sauve. » Quand on pense une telle chose, bien souvent, c'est parce qu'on confond le péché avec la morale. Du point de vue de la morale, c'est vrai qu'il existe des personnes qui sont vraiment de très belles personnes, qui ont une morale qui est forte et admirable. Mais la morale, ce n'est pas le péché. Ce sont deux choses bien différentes. Parce que le péché dépasse la notion de morale. Le péché, ça veut dire être en dehors de la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, nous avons tous besoin de rechercher cette relation personnelle avec lui. Mais ce n'est pas forcément toujours facile, humainement parlant en tout cas. Et Dieu le sait. Parfois, on peut passer par des temps de faiblesse, des temps de découragement, de difficulté, qui sont si forts que nos bras spirituels se fatiguent. On portait si haut l'étendard de Dieu. Mais nous l'avons petit à petit abaissé. Et l'ennemi, le péché, a gagné du terrain. Et notre relation avec Dieu s'est faite plus lointaine, plus rare, plus du tout. C'est pour ça que Dieu a instauré l'Église. C'est pour ça aussi que nous nous réunissons. C'est pour nous encourager mutuellement. C'est pour nous soutenir mutuellement, pour que ceux qui passent par des difficultés se sentent entourés et que nous ne nous sentions pas seuls à porter cet étendard. Même Moïse est passé par là. On peut le lire dans Exode 17, toujours au verset 12. « Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. » Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Merci Seigneur pour l'Église. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui se montrent présents pour écouter et pour prier et pour encourager et pour prêter main forte aussi physiquement lorsqu'ils le peuvent. Chacun d'entre nous n'est appelé à avoir ce rôle. Comme Aaron, comme Hur, ont eu ce rôle auprès de Moïse. C'est un rôle vraiment de soutien dans le combat spirituel. Et lorsque c'est nous qui fatiguerons face à nos propres combats, eh bien, d'autres Aaron et d'autres Hur viendront nous soutenir à leur tour. Ils ont tenu ferme jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la fin du combat. Et qui a gagné ? Israël. On le lit au verset 13. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple, au tranchant de l'épée. Josué, effectivement, a été victorieux sur les Amalécites. Pourquoi ? Car Dieu les a combattus jusqu'à la victoire d'Israël. Et de la même manière, Jésus est déjà victorieux sur le péché. Car Dieu a déjà remporté la victoire sur le péché. Cette victoire, elle s'est produite à la croix. Jésus, l'Éternel sauve, a été hissé sur la croix. Il est devenu lui-même l'étendard de Dieu, symbolisant ce salut que Dieu nous donne. Et Jésus, c'est lui, l'étendard que nous levons en signe de victoire sur le péché. Amen. Et pour pouvoir hisser Jésus comme notre étendard, il suffit juste d'une seule chose, de l'accepter. Juste d'accepter. Lorsque nous levons l'étendard de Jésus, en réalité, ce n'est plus pour que Dieu combatte d'ailleurs. C'est pour proclamer que la victoire de Dieu prend place dans notre vie. Parce que le combat est déjà remporté. La victoire est déjà proclamée. Et franchement, c'est quand même une position super confortable, vous ne trouvez pas ? On sait déjà qui c'est qui a gagné. Et on arrive après le combat. Et on a le choix entre le camp du vainqueur et l'autre camp. En général, enfin, moi c'est ce que je vous conseille, hein, c'est de choisir le camp de celui qui gagne. Parce que nous remportons à ce moment-là la victoire avec lui. Waouh ! Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Ah, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Alors réjouissons-nous car Dieu nous donne cette possibilité de lever son étendard et de prendre part à sa victoire. Et bonne nouvelle, c'est la traduction du mot évangile. Et les évangiles, ce sont les quatre premiers livres du Nouveau Testament qui nous parlent, qui témoignent de la manière dont Jésus a remporté la victoire sur le péché. Ils nous témoignent de cette bonne nouvelle. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais combien ? Quatre fois ! C'est pour être sûr qu'on ait bien compris. Apprendre, c'est l'art de la répétition. Eh bien, Dieu avait déjà compris ça bien avant tout le monde. Quatre fois, nous avons ce récit de la bonne nouvelle. C'est ce que faisait Moïse dans notre verset d'introduction, parler de cette bonne nouvelle. C'était Exode chapitre 17, verset 15. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel, mon étendard. Moïse témoigne de cette bonne nouvelle de la victoire de Dieu sur l'ennemi. Amen. Reprenons un peu tout ça. On a vu quatre points clés, quatre points fondamentaux. Premier point, nous sommes appelés à choisir de lever l'étendard de Dieu. Cet étendard de Dieu, c'est Jésus lui-même. Deuxième point, nous sommes aussi appelés à soutenir ceux qui passent par des temps difficiles et qui faiblissent dans le combat spirituel pour les aider à porter cet étendard de Dieu. Et troisième point, si nous-mêmes, nous sommes dans ce temps de faiblesse, nous pouvons compter sur nos frères et sœurs en Christ, que nous côtoyons dans l'Église pour nous soutenir dans ce combat, qui est d'abord un combat spirituel. Et quatrième point, enfin, en levant l'étendard de Dieu, nous prenons part à sa victoire et nous pouvons témoigner de cette bonne nouvelle autour de nous. Amen. En conclusion, j'ai une dernière pensée à vous partager. Peut-être que quelqu'un se dit que cet étendard, il est trop lourd à porter. Alors oui, bien sûr, il y a l'Église pour encourager, pour soutenir, mais c'est trop lourd de choisir le camp de Dieu. On peut être comme arrêté par la peur de ce qui pourrait se passer, après tout. C'est vrai, tant qu'on n'a pas de relation avec Dieu, Dieu c'est comme un inconnu pour nous. Le roi Salomon a écrit l'un des livres de la Bible qui s'appelle « Le Cantique des Cantiques ». C'est un livre poétique qui utilise des images parfois très déroutantes pour nous parler de notre relation avec Dieu, de la relation de l'Église tout entière avec Dieu. Et l'un des versets nous parle de l'étendard de Dieu, Dieu qui est surnommé dans le texte « Mon bien-aimé ». Alors voici ce que ça donne. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. L'étendard que mon bien-aimé déploie au-dessus de moi, c'est l'amour. Jésus-Christ, c'est le symbole de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Si Dieu veut nous sauver du péché, c'est par amour pour chacun d'entre nous. Il a déjà fait 99% du chemin. mais il ne veut pas nous imposer cet amour. Il nous reste 1%, un tout petit pourcent, et c'est à nous de le parcourir. Et on le parcourt simplement en acceptant Jésus-Christ dans notre vie. Jésus-Christ, cet étendard d'amour venu pour nous sauver. Et de cette manière, eh bien, nous apprendrons à connaître Dieu. Dieu ne sera plus un inconnu. Et nous serons dans son camp. Et il sera au milieu de nous. Amen. Ah, Seigneur Jésus, merci Seigneur vraiment pour cet étendard d'amour qui a été déployé sur chacun de tes enfants, sur ton Église, sur tous les êtres humains, Seigneur. Seigneur, vraiment, merci. Permets que le plus grand nombre, Seigneur, puisse choisir de faire ce pas, de t'accepter, Seigneur, dans leur vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles à lever ton étendard, à lever cet étendard, cet étendard d'amour qu'est Jésus. Aide-nous, Seigneur, à vraiment proclamer cette bonne nouvelle de la victoire de Dieu sur les épreuves, sur le péché. Car Seigneur, c'est toi qui combats. Ce n'est pas nous, Seigneur, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel et nous savons que tu l'as déjà remporté, Seigneur éternel. Aide-nous, Seigneur, à soutenir ceux qui fatiguent dans ce combat, Seigneur. Car c'est vrai, ce combat dure. Mais nous savons, Seigneur, que nous pouvons compter sur nos frères et sœurs pour nous soutenir. Et nous pouvons nous-mêmes être des soutiens, Seigneur. Merci pour l'Église. Merci pour tous ceux qui se mobilisent dans la prière, pour tous ceux qui intercèdent, pour ceux qui sont dans l'épreuve. Et Seigneur, merci parce que tu ôtes de notre regard un voile ce matin. Tu nous permets de voir, Seigneur, au travers des épreuves, que tu es là, que tu es bien là, au milieu de nous, Seigneur. Et nous voulons le proclamer encore. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Que ton nom soit élevé et glorifié, Seigneur éternel. Amen.